Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, le philosophe François-Xavier Bellamy, l'ancien conseiller de l'Élysée auprès de François Hollande, Gaspard Ganzer, le journaliste du Monde, Gérard Courtois, et le directeur du think tank Terra Nova, Thierry Pech. Au sommaire de ce dimanche 25 novembre, après le nouveau rassemblement des Gilets jaunes hier à Paris et avant les mesures qui seront annoncées cette semaine par l'Élysée, où en est notre conscience écologique? Et puis on se demandera aussi à quoi servent les maires de France qui étaient réunis ces derniers jours pour leur congrès annuel. L'image de ce samedi 24 novembre resterait donc celle de ces 5000 gilets jaunes faisant face à des CRS sur les Champs-Élysées. Image de débordement, comme disaient les chaînes d'infos, qui les avaient faites tourner en boucle. On y voyait la frange la plus radicale de ce mouvement polymorphe, tout en continuant d'entendre ces citoyens qui se vivaient assommés de charges, mal payés, abandonnés par l'État, en périphérie. On attendait maintenant la réponse d'Emmanuel Macron, un projet de loi mobilité présenté demain avec sans doute l'abandon de la vignette poids lourd. Mardi, le président présenterait sa programmation pluriannuelle de l'énergie, soit la feuille de route du gouvernement en matière de transition énergétique. L'installation d'un haut conseil pour le climat placé sous l'autorité de Matignon, avec des moyens et de nombreux experts, dont Pascal Canfin, le directeur du WWF, et sans doute l'ouverture d'une sorte de nouveau Grenelle de l'environnement ou assise ou grande consultation, au fond peu importait le nom, mais qui avait surtout vocation à maintenir les mesures impopulaires, les fameuses taxes sur les carburants au 1er janvier notamment, mais en impliquant les associations, les syndicats, voire les fameux gilets jaunes eux-mêmes que l'Élysée voulait amener à désigner des porte-paroles et à présenter des revendications précises et rationnelles. Bref, essayer de sortir du dialogue de sourds, celui entendu par exemple jeudi soir sur le plateau de France 2, dans l'émission politique de Léa Salamé, entre l'ancien ministre de l'Environnement Nicolas Hulot, qui parlait fin du monde, et un gilet jaune, qui parlait lui, de ces fins de mois.
Aujourd'hui, la colère, elle est grande. Moi, j'aimerais juste que vous m'expliquiez, monsieur Hulot, comment la hausse des taxes sur le carburant peut faire quelque chose pour l'écologie.
J'ai aucun doute des fondements de cette colère. À partir du moment où on considère que les énergies fossiles sont l'ennemi de l'humanité, on menace sa propre existence. Il faut inciter, évidemment, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient les acteurs particuliers ou les acteurs économiques, petit à petit, à s'en affranchir. Et il y a une urgence absolue. On ne peut plus attendre. Voilà. Mais pour ne pas mettre les gens dans les impasses, si on augmente quelque part le prix, il faut leur permettre de diminuer leur consommation. J'entends bien que ce n'est pas facile.
Non, mais ça me fait rire, monsieur Hulot.
Je n'ai pas l'humeur à rire.
C'est ce que je vous dis. Vous n'avez aucune conscience de la réalité des choses. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 1200 euros par mois? Mais nous, les gilets jaunes, monsieur Hulot, on n'a jamais dit qu'on était contre l'écologie. Au contraire. Mais la réalité, je vous dis, vous l'avez perdue, monsieur Hulot.
Non. Ce que vous dites, j'en ai une cruelle conscience, même si moi, je ne le vis plus à titre personnel. Et ce que vous me dites me fait beaucoup de peine pour vous et pour les gens. Mais ne mettez pas tout ça simplement sur le dos de l'écologie.
Gérard Courtois, qu'est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes nous dit du macronisme et de cette double temporalité complexe où l'on doit se préoccuper à la fois des fins de mois et de la fin du monde, comme dit Nicolas Hulot?
Ça ne dit pas que du macronisme, ça dit de l'action politique aujourd'hui. Aujourd'hui et hier. Cette espèce d'image qui est parlante entre la fin de mois et la fin du monde, elle dit bien cette contradiction de plus en plus aiguë entre les urgences de court terme ou les impatiences de court terme et les enjeux de long terme. Et sur l'écologie, c'est évident que tout ce qu'on peut... On est devant une opinion totalement schizophrène et devant des politiques totalement schizophrènes. L'opinion est... À l'évidence, dans toutes les enquêtes qu'on voit passer, de plus en plus réceptive et sensible à la question écologique ou au risque écologique, mais quand il s'agit d'une manière ou d'une autre d'en payer le coût de cette transition écologique, la révolte est immédiate. On le voit aujourd'hui. Quant aux politiques, depuis la Maison Brûle de Chirac en 2002 jusqu'à Make Our Planet Great Again de Macron en 2007, en passant par le Grenelle de l'environnement de Sarkozy, la COP21 et l'accord de Paris de Hollande, on est dans de l'affichage très démonstratif et solennel, mais pour ce qui est des changements réels et des politiques effectives, on est, comme dirait Hulot, dans la politique des tout petits pas. Et donc on est en permanence dans cette contradiction. En permanence.
Dans ce tiraillement-là, devant cette catastrophe qui se déroule dans un temps étiré. Thierry Pech, comment vous avez regardé le film de la journée d'hier, à la fois sur un plan médiatique et sur un plan politique précisément ?
Alors, sur le plan de la mobilisation était à l'évidence moins forte que la semaine passée. Sur le plan médiatique, on a pu observer qu'elle était aussi à l'évidence plus violente à Paris. Mais à la limite, vous savez, je suis pas très surpris que le mouvement s'essouffle. Il va s'essouffler, puis il va disparaître, et un autre viendra. Parce que les causes qui sont sous-jacentes, elles sont fortes, elles sont structurelles. Elles n'ont pas grand-chose à voir avec l'environnement et l'écologie. Je crois que Nicolas Hulot a raison de le rappeler. Moi, j'ai pas entendu les Gilets jaunes se révolter contre les politiques environnementales. Je les ai entendus poser des questions sur le pouvoir d'achat, sur l'équité fiscale. Sur... Il se trouve qu'il y a dans la hausse du carburant une partie des causes, une partie seulement et pas la première qui est liée à la hausse de la fiscalité. Mais cette fiscalité n'est pas que carbone. Vous savez, la fiscalité carbone est venue s'ajouter à une fiscalité des carburants qui était déjà très forte. Donc, je crois qu'il faut, il faut bien situer le problème. Il y a un problème de pouvoir d'achat et d'équité, une demande de justice, tout simplement, qui ne trouve pas d'ailleurs de langage politique parce que l'effacement du clivage gauche-droite a rendu cette formulation plus inaudible, ou en tout cas moins visible. Mais c'est ça le sujet. Je voudrais rappeler des choses qui n'ont pas été assez dites sur la situation de ces gens. D'ailleurs, on ne sait pas très bien de qui on parle, à vrai dire. Hein. On en a une intuition, une impression, on a des témoignages. On recompose une espèce de puzzle sociologique et on se dit, bon, bah, c'est des gens qui habitent la France périurbaine, etc. Bon. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui travaillent et qui dépendent de la voiture, ils ont vécu des évolutions majeures qui sont peu rappelées aujourd'hui. Et notamment l'une d'entre elles, qui est l'effet de ciseau entre la métropolisation des emplois et la périurbanisation du logement. Les emplois aujourd'hui se créent dans les métropoles. Si vous prenez une métropole comme Nantes, vous regardez l'ensemble de la métropole, donc c'est beaucoup de communes, vous regardez où ont été créés les emplois qui ont été créés, ils ont été créés dans deux communes qui sont le centre de l'agglomération. Et ça, c'est vrai dans la plupart des métropoles. Donc, métropolisation des emplois. Les gens viennent travailler dans les métropoles, mais le prix du foncier y est tellement élevé et le logement tellement insuffisant qu'ils vont habiter loin des centres. Et donc, ils sont dans une dépendance à la voiture, parce qu'il n'y a pas d'autre solution souvent pour eux, notamment en province, qui va croissant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là ? On peut, bien sûr, agir sur les taxes, les carburants. On devrait aussi se poser la question du logement, de l'ouverture des villes. On ne se pose pas les questions structurelles qui sont à la racine du problème. En fait, en longue période, si vous regardez le coût réel des carburants sur 30 ans, il a baissé. Les voitures sont plus efficaces. Les revenus ont augmenté, même au SMIC. Bon, donc, le problème, c'est pas le prix seulement, c'est la nécessité de la mobilité quotidienne. On n'a pas regardé ça. Il faut travailler sur ce point, il faut travailler sur les usages. Enfin, il y a 6 mois, 9 mois, on avait des assises de la mobilité dans ce pays. Où étaient les usagers ? On a fait parler les professionnels. Où étaient les usagers ?
Il y a un grand projet de loi mobilité qui sera présenté demain par la ministre des Transports, qui devrait annoncer des sommes considérables, notamment pour le développement du ferroviaire en France. Mais avant cela, il y a quand même cette question...
Pardon Émilie, je peux vous donner juste un chiffre pour illustrer ce que je disais. Le monde rural aujourd'hui se repeuple un peu. La démographie du monde rural est positive. Mais vous savez combien il y avait dans le monde rural de gens qui résidaient là et travaillaient ailleurs ? Il y a 25 ans, il y en avait 1 sur 4. Aujourd'hui, il y en a 1 sur 2. La figure du navetteur est une figure dominante de l'espace social français aujourd'hui, en tout cas qui va le devenir.
On va y revenir bien sûr dans un instant. L'une des urgences pour ce gouvernement, c'est maintenant néanmoins d'apporter une réponse sur cette fiscalité écologique. Bruno Retailleau, dans le journal du dimanche ce matin, explique que selon lui, le président Macron casse la solidarité nationale. Lui pense qu'il faut annuler les hausses de taxes dans le projet de loi de finances. François-Xavier Bellamy, il dit d'ailleurs que c'est ce qu'il fera au Sénat avec cette phrase. Il faut sortir de l'écologie idéologique qui est un gauchisme et de l'écologie médiatique que Hulot incarne. Référence à l'émission de l'ancien ministre de l'Environnement cette semaine. Que feriez-vous, vous, François-Xavier Bellamy ? Il faut renoncer à ces taxes ?
Il faut évidemment renoncer à ces taxes pour une raison très simple, c'est que la fiscalité est évidemment un outil pour orienter les pratiques de consommation des gens lorsqu'ils ont des alternatives, c'est-à-dire lorsqu'ils peuvent faire un choix. Et lorsqu'il y a un choix à faire entre deux options, le législateur, l'État peut en faisant peser plus lourd l'une des deux options, guider le choix de l'acteur individuel vers la seconde option. Ici, ça n'est pas le cas. Thierry Pêche le rappelait à l'instant, beaucoup de gens qui vivent dans le monde rural notamment, dépendent de leur voiture pour aller travailler. Et la fiscalité écologique, effectivement, n'est pas le problème en tant que tel de ces gens. Le problème, c'est qu'ils sont déjà ceux qui ont vu leur niveau de vie baisser, comme le montrait une récente étude de l'OFCE, c'est-à-dire ces classes moyennes inférieures qui ont subi la crise parce qu'elles sont à la fois trop pauvres pour pouvoir surnager, mais paradoxalement trop peu pour pouvoir bénéficier des aides de l'État ou des dispositifs de l'État. Elles sont par ailleurs dans des lieux qui sont désertées aujourd'hui par les services publics et donc elles souffrent de l'absence d'un maillage territorial qui puisse...
Les mesures d'accompagnement, elles vous semblaient clairement insuffisantes? Le fait de pouvoir proposer jusqu'à 4000 euros pour remplacer un véhicule ou justement compenser les indemnités kilométriques pour ceux qui font plus de 60 km par jour, le dispositif d'accompagnement n'était pas au niveau?
D'abord, je trouve qu'il y a quelque chose, il faut faire très attention. Dans ce mot accompagnement, je vois aussi une forme de violence sociale. Je ne dis pas ça pour vous du tout, mais je veux dire par là que les gens travaillent. On parle là pour beaucoup de gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et on leur dit, on va vous accompagner. Un homme, dans son travail, une femme, il n'a pas seulement besoin de trouver les moyens matériels de vivre, il trouve aussi son autonomie, sa capacité de conquérir ses moyens d'existence. Si l'État vous prend tellement d'argent que vous n'arrivez plus à survivre et qu'ensuite l'État vous en rend en disant « remerciez-moi de bien vouloir vous accompagner », nous commettons à l'égard de ces gens une forme de violence. La dignité du travail, c'est aussi précisément qu'il est la conquête d'une liberté et d'une autonomie personnelle. Et donc je crois qu'il y a quelque chose d'abord d'économiquement absurde dans cet empilement incroyable qui fait qu'on prélève des taxes de plus en plus lourdes. Il faut quand même rappeler que la France est la championne du monde des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire nous sommes les premiers au monde.
Mais donc ça veut dire quoi? Quand on a responsabilité, on renonce à toute fiscalité écologique?
Non, mais il faut créer des alternatives. C'est là-dessus qu'on attend l'État. Et je rejoins tout à fait Thierry Pêche dans ce qu'il disait à l'instant. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est la question de la vision d'un modèle d'aménagement du territoire. Comment est-ce que nous voyons demain le lien entre le travail et la résidence? Comment est-ce que nous voyons nos politiques du logement? Comment est-ce que nous voyons nos politiques de mobilité? Et ça suppose de prendre en considération le basculement incroyable qu'on est en train de vivre avec l'évolution des technologies qui fait que demain, certainement, la démographie du monde rural est susceptible de pouvoir reprendre vraiment un peu de vigueur, précisément parce que la métropolisation, je crois, a fait son temps. Les gens aujourd'hui ne veulent plus s'agglomérer dans des lieux où le foncier est de plus en plus cher. Ils voudraient pouvoir retourner dans des espaces de vie où des solidarités locales existent et où on ne soit pas plongé dans l'anonymat des grandes villes. Et c'est devenu possible parce que les moyens technologiques nous permettent sans doute de vivre un autre rapport au travail. Encore faudrait-il qu'il y ait une vraie vision de fond pour ça. Là, on ne parle pas d'une réforme de fond, on parle d'une augmentation des taxes. Et si l'augmentation des taxes suffisait à faire une politique écologique, la France serait un paradis écologique.
Alors, le gouvernement vous répond peut-être d'une certaine manière puisque demain, un plan mobilité va être présenté. Je le disais, 50% de moyens en plus pour remettre en état le réseau ferroviaire. L'État va investir 2,6 milliards pour augmenter l'offre de trains du quotidien, là où il y a le plus de besoins. Gaspard Ganzer, on se souvient bien que le président Hollande, lui aussi, sur l'affaire des bonnets rouges, avait été conduit à renoncer à la fiscalité écologique. C'est une fatalité, une malédiction des présidents, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, c'est de devoir toujours systématiquement renoncer à cette possibilité écologique-là?
En fait, je pense que si François Hollande avait renoncé, comme peut-être Emmanuel Macron le fera à son tour, c'est parce que...
Il maintient pour l'instant l'idée de ces taxes au 1er janvier.
On verra comment ça se termine. Parce qu'en général, quand il y a une révolte fiscale, ça se termine déjà rarement très bien pour les gouvernements en place. Mais quand François Hollande s'était trompé, il avait commis une erreur avec son gouvernement, cette idée surréaliste, il faut s'en souvenir quand même, d'installer des portiques sur des autoroutes en France pour faire payer une écotaxe, ce n'était pas une bonne approche. Pourquoi ? Parce que l'écologie punitive, ça ne marche pas. L'écologie où on matraque fiscalement les plus pauvres, ça ne marche pas et ça ne marche jamais. On peut utiliser le signal prix sur le long terme, mais à très court terme, quand on assomme les gens, évidemment, les gens se révoltent. Donc, je souscris évidemment ce qui a été dit notamment par Thierry Pêche. On ne peut fonctionner en matière d'écologie que s'il y a une justice sociale, et j'utiliserai même le terme de justice écologique, en faisant pas d'abord payer les plus pauvres et les plus fragiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça ne fonctionne que si on a la bonne méthode. Là, j'ai l'impression que le gouvernement actuel redécouvre la roue, peut-être un peu tard, parce qu'il donne parfois le sentiment, vous savez, d'être dans celui qui, dans la cour de récré, coigne d'abord et discute ensuite. Le Premier ministre, dimanche dernier, il faut le redire, je suis désolé pour lui, quand on lui a parlé de la main tendue de la CFDT sur la question de l'écologie, a singé son ancien mentor Alain Juppé et a voulu montrer qu'il est resté droit dans ses bottes. Là, on redécouvre aujourd'hui, peut-être un peu tard, les vertus du dialogue social. Parce que oui, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux, il faut discuter avec les camps intermédiaires pour le faire. La troisième chose, c'est la question de la cohérence. La politique écologique, elle doit être cohérente. Donc on peut vouloir jouer sur l'effet prix, pourquoi pas, sur le long terme. Mais en même temps, il ne faut pas faire de forage en Guyane. Il ne faut pas annoncer, comme probablement le président de la République va le faire mardi, la création de nouveaux EPR. Il ne faut pas, parce que je souriais quand vous parliez du plan mobilité, renoncer au Grand Paris Express ou en le reportant de 10 ans parce qu'on estime qu'on n'a plus d'argent. Et aujourd'hui, on dit on va remettre de l'argent
avec transport. Là, c'est le futur candidat à la mairie de Paris qui parle.
Pas du tout. Grand Paris Express concerne toute la région Île-de-France et pas simplement la ville de Paris. Et,
pas de coming out ce matin dans ce studio à 11h16.
On en reparlera quand vous voulez, mais on prend les choses dans le bon ordre. Et enfin, ou alors d'annoncer la création d'une nouvelle autoroute autour de Strasbourg, ce qu'on appelle le grand contournement ouest, pour bétonner davantage une campagne qui n'en a pas besoin. Donc il faut de la justice sociale, de la justice écologique, il faut de la méthode contractuelle, il faut de la cohérence. Si on n'a pas ces trois ingrédients, on se plante, comme François Hollande s'était planté sur les bonnets rouges. Heureusement, il s'était rattrapé par la suite avec la COP21, même si aujourd'hui, celle-ci est en souffrance.
Gérard Courtois, est-ce que ça veut dire que systématiquement, la fiscalité écologique est un piège pour les dirigeants? Est-ce qu'elle est forcément considérée par ce qu'on appelle l'écologie punitive?
C'est pas la fiscalité écologique qui est un piège. Et François-Xavier Bellamy le disait tout à l'heure, c'est la fiscalité elle-même. On vient de publier une étude d'Ipsos avec la revue de finances publiques sur le rapport des Français à l'impôt. Là, il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? 54%, à peine plus de la moitié des Français considèrent que le paiement de l'impôt est un acte citoyen. Pourquoi? Parce que, un, ils considèrent que l'impôt est excessif, et effectivement, on est à un niveau de prélèvement obligatoire qui, non seulement est record en Europe, voire dans le monde, je ne sais pas, mais qui a considérablement, très sensiblement augmenté depuis 30 ans. Et deuxièmement, deuxième raison de cette défiance à l'égard de l'impôt, c'est l'usage de l'impôt. Les Français, à plus de 80%, disent l'argent de l'impôt est mal utilisé. Et quand on évoque, par exemple, les mesures d'accompagnement sur la fiscalité pour compenser, en fait, l'impact de la taxe carbone, très bien, sauf que pourquoi est-ce qu'il y a un tel soupçon sur l'usage de cette taxe? Un, parce qu'elle est opaque, qu'on ne sait pas précisément à quoi elle est affectée. On a une sorte d'ergotage permanent des ministres ou des responsables pour dire « Ah mais si, en fait, parce que voilà, c'est pas exactement, ça ne représente pas tout l'effort de l'État. »
Il y a une pédagogie de l'impôt qui n'est pas faite.
Et il y a des ordres de grandeur qui sont très simples. Je veux dire, les taxes carbone en 2019, si rien n'est changé, si ce qui est prévu reste appliqué, rapporteront 4 milliards d'euros la taxe carbone incriminée. Les mesures d'accompagnement, elles étaient de 1 milliard l'an dernier. Le Premier ministre en a hier rajouté 500 millions, 1 milliard et demi contre 4 milliards. Les gens, ils font des comptes très simples. Disent, voilà, et dans le rapport à l'impôt dont témoigne cette étude qu'on a publiée, il y a quelque chose de très consumériste. On peut le déplorer, mais c'est ainsi. Il y a un rapport à l'impôt, c'est est-ce que j'en ai pour mon argent? Et là, les gens disent, je n'en ai pas pour mon argent. Entre autres choses. Je voudrais juste rajouter que ce qui est très problématique, me semble-t-il, dans la situation actuelle, c'est que les trois fractures se recouvrent, et se recoupent, et se redoublent. La fracture sociale, Thierry en a parlé tout à l'heure, la fracture territoriale également, et la fracture fiscale. Et quand on a cette espèce de conjonction on est devant un problème qui est très compliqué à résoudre.
Est-ce que ça veut dire qu'on met systématiquement sous le tapis ce que j'ai appelé notre conscience écologique? On entend quand même la timidité des ambitions françaises en la matière, Thierry Pech. Alors on entend par exemple François de Rugy sur le charbon nous promettre de baisser de 40% les énergies fossiles d'ici 2030. On sait que la Suède sera à zéro en 2020, la Suède qui aura réussi aussi vraisemblablement sa transition énergétique avec 12 ans d'avance le mois prochain. On voit le classement de ces pays les plus écolos, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, l'Autriche, etc. On est loin derrière et on en est, certains pourraient dire, à ergoter ou mégoter sur une augmentation de 6 centimes de taxe sur le litre de diesel. Ça a à voir avec la conscience écologique française, c'est ça aussi le problème aujourd'hui ?
Bien sûr que c'est ça le problème. C'est-à-dire que on a considéré dans ce pays l'écologie, comme dans beaucoup d'autres pays développés, comme un petit supplément d'âme pour lequel on consacrait une partie des programmes politiques, et pas comme une priorité. Les générations futures nous jugeront sévèrement, très sévèrement. Il est évident, si on regarde les choses à long terme, que le sujet numéro un, c'est la transition écologique. Bon. Et ça n'est pas le sujet numéro un des principales économies, des principaux gouvernements, des principales économies européennes.
Mais alors pourquoi êtes-vous si critique pour qu'on comprenne bien sur la fiscalité écologique ? Mais attendez, comment réussit cette transition ?
Justement, je voudrais lever une ambiguïté. Je n'ai pas été critique sur la fiscalité écologique. J'ai rappelé les sous-jacents qui, pour ce mouvement comme pour le suivant, restent des sous-jacents structurels. Je suis embarrassé parce que... Avec François-Xavier, on est manifestement d'accord sur le diagnostic, mais pas du tout sur les solutions. Ouais. Et je voudrais m'empresser de briser cet accord en toute civilité. C'est important.
Absolument,
c'est important.
Mais justement, je vais vous aider à lever cette ambiguïté. Que feriez-vous, vous, maintiendriez-vous, voilà, par exemple,
alors,
ces taxes sur le diesel ?
Bien sûr, la fiscalité écologique est extrêmement importante. La question est de savoir pourquoi et comment. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'internaliser des coûts qui, sans elle, seraient inapparents dans l'économie. Il y a un coût à la production, au stockage de CO2 dans notre environnement. Eh bien, la fiscalité écologique permet de mettre un prix dessus, en disant, ben voilà, on va vous faire payer plus cher les produits qui émettent plus de gaz à effet de serre. C'est ça le mécanisme. Donc c'est très important de le maintenir, parce que sinon, les fossiles redeviendront très populaires, très rapidement. Et ça, c'est un problème. Alors la question, c'est comment ? À qui on fait payer ? Et comment on redistribue pour aider ceux à qui ça coûte le plus ? Je rappelle quand même que la fiscalité écologique, elle est payée par des entreprises. Si vous faites trop monter la fiscalité, ces coûts seront répercutés sur les prix. Et les petites gens les paieront aussi, les conséquences de cette fiscalité. Donc il faut faire les choses de façon subtile. La première chose, c'est que la fiscalité écologique, elle doit être relativement neutre. C'est-à-dire qu'elle doit se substituer à d'autres formes d'impôts, beaucoup plus que s'y ajouter. Et ça, malheureusement, c'était un relatif consensus théorique il y a quelques années, mais c'est pas ce qui s'est produit. La deuxième chose, c'est qu'il faut un effort de redistribution à destination des gens qui sont les plus fragiles. Comment on fait ? Je vous disais tout à l'heure, les gilets jaunes, on ne sait pas trop qui c'est, on ne saura pas bien cibler, on ne sait pas quel est le bon instrument. Mais manifestement, il y a des gens dans ce pays qui vivent dans des passoires thermiques et qui dépendent beaucoup de leur voiture. Bon, ces gens, en gros, ils sont dans les classes populaires. C'est à destination de ces classes populaires, ce n'est pas toujours les plus pauvres. François-Xavier a rappelé qu'il n'était pas assez pour profiter des aides de l'État, c'est juste. Mais ce n'est certainement pas les plus riches. Mmh. En termes techniques, c'est des gens qui sont entre le deuxième et le cinquième décile de la distribution des revenus. Eh ben, il faut ceux-là les aider. Nous, on a proposé à Terra Nova une prime écologique, c'est une solution. Mais vous savez, vous avez un autre problème qui n'est pas relatif aux revenus, qui est la dépréciation du patrimoine de ces gens. Quand vous êtes dans les classes populaires et que vous avez un peu de patrimoine, vous possédez quoi ? Votre voiture et votre logement. On a voulu la France de propriétaire, on n'est pas loin de l'avoir. Bon. Quand vous sortez des 50 premières villes françaises, le prix des logements, il a baissé sur 10 ans. Il a baissé. En gros, si aujourd'hui ces gens revendent leur maison, ils perdent à peu près le rapport personnel qui est en moyenne de 10%. Quant à la voiture, si vous aviez un diesel, je rappelle qu'en 2008, Nathalie Kosciusko-Morizet faisait encore du bonus-malus en faveur du diesel. De bonne foi d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas les informations de l'OMS sur le caractère cancérogène des particules fines émises par le diesel. Bon, si vous avez un diesel aujourd'hui, il se dévalorise. Sur le marché d'occasion, vendre un diesel, c'est pas une sinécure aujourd'hui. Donc vous avez une espèce de mini-crack sur le marché de l'occasion automobile qui frappe d'abord ceux qui ont essayé de se protéger du coût des carburants par le diesel. En termes patrimoniaux, si vous voulez, ces gens boivent la tasse. Donc il est très important de faire de la redistribution à destination de ces gens. Mais surtout pas de sacrifier la fiscalité écologique. Leur intérêt, c'est de plus dépendre du pétrole.
Il faut une fiscalité neutre. Cette augmentation de, je crois, 6,5 centimes d'euros sur litre de diesel, c'est ce que vous appelez une fiscalité neutre ou elle était, à votre sens,
le diesel,
excessive ?
Non, mais c'est une autre question. Il ne faut pas mélanger la taxe carbone et l'aliment.
C'est la question du moment.
Oui, mais bien sûr. Mais Pourquoi on aligne la fiscalité du diesel sur celle de l'essence? Parce qu'il y a, par exemple, en 2014, savez-vous de quel volume est la surmortalité imputable aux particules fines dans les grandes aires urbaines françaises? 48 000 morts. L'alcool fait combien de morts? 49 000. En termes sanitaires, la question de la pollution atmosphérique, c'est aussi grave que l'alcool. C'est pour ça qu'on aligne le diesel sur l'essence. L'erreur qu'on a faite, c'est de populariser le diesel il y a 10, 15, 20 ans.
La question qui se pose maintenant, François-Xavier Bellamy, aux dirigeants politiques, c'est comment on fait renoncer les Français au diesel sans avoir recours à la fiscalité écologique?
D'abord, je suis d'accord avec Thierry, la question c'est de
François Xavier, c'est toujours de rétablir l'accord.
Non mais on va tenter de faire la liste de nos points de désaccord. On peut effectivement déplacer la fiscalité, mais c'est difficile aujourd'hui de l'augmenter encore dans la mesure où cette pression fiscale qu'on évoquait est très importante. La deuxième chose, c'est que les gens sont victimes de la politique de l'État lui-même. Moi je suis enseignant. J'ai acheté un véhicule diesel en 2014 sur la foi d'un garagiste qui me disait que ça polluait moins qu'une voiture essence. Maintenant, avec des motorisations et des filtres à particules, ça me coûtait plus cher. Mais effectivement, c'était ensuite la promesse d'un carburant moins cher. Pour moi, c'était plusieurs mois de salaire. Voilà, j'ai acheté mon véhicule. L'État se retourne brutalement et maintenant, le gasoil coûte plus cher à la pompe que l'essence. Il y a quelque chose aussi de désespérant dans le fait d'être piégé dans les revirements de la politique de l'État. On pourrait peut-être considérer qu'on peut se donner un peu plus le temps. Et la dernière chose, c'est que je voudrais pas qu'on fasse croire dans notre débat que les Français n'ont pas de préoccupation pour l'écologie. Les Français sont pas, simplement pas complètement naïfs. Et ils savent très bien que ce qui est très étonnant, c'est que d'une part, on va effectivement
les études d'opinion montrent assez régulièrement qu'il n'y a pas une très forte conscience écologique chez les Français.
Ça dépend ce qu'on appelle une conscience écologique. La question, c'est, quand la question qui est posée, c'est est-ce que vous êtes préoccupé par l'avenir de l'environnement, la réponse est massivement oui. Quand on pose la question, est-ce que vous êtes prêt à changer vos comportements, c'est vrai que la réponse est souvent décevante. Mais pourquoi? Parce que les Français voient très bien que on leur demande à eux de porter tout le poids de cette fiscalité écologique, mais pendant ce temps-là, nous n'avons pas renoncé à tous les dogmes qui causent aujourd'hui la grande fragilité de l'environnement. Nicolas Hulot le disait lui-même au moment où il démissionnait, on va inaugurer en grande pompe les supercargos qu'on produit aujourd'hui et qui produisent par l'intensification des échanges maritimes une pollution considérable. Alors la question de savoir dans quelle mesure c'est plus ou moins important que la voiture, c'est une question complexe, mais en tous les cas, ça joue un rôle fondamental.
On sait que
les échanges aériens sont prévus pour augmenter de façon massive. Et là, pour le coup, rien n'est fait pour les dissuader. Au contraire, on est très heureux de vendre de plus en plus d'avions et de faire de plus en plus de grands aéroports.
Mais donc, parce que vous trouvez cela incohérent, vous êtes pourquoi pour une révolution écologique?
Mais bien sûr, il y a une transition. Je suis tout à fait certain qu'on est devant un choix fondamental qui nous attend. Et ce choix fondamental, encore une fois, il suppose non pas seulement de considérer, parce qu'en fait, c'est pas d'écologie qu'il s'agit ici, c'est d'incapacité de l'État à se réformer. Et donc, on va chercher des nouveaux moyens de produire de la recette fiscale. Et du coup, on l'habille d'un discours écologique. Mais en fait, ça n'y changera rien, dans la mesure où, encore une fois, ces gens-là n'ont pas le choix. Et s'ils n'ont pas le choix, qu'est-ce que ça peut bien changer à leur comportement? Ça va simplement augmenter leur niveau de paupérisation, leur niveau de désespoir, leur niveau de colère, et on pourra les culpabiliser de plus en plus. On ne fera que creuser le fossé qui sépare ceux qui ont les moyens de se déplacer d'une manière écologique, c'est-à-dire des habitants de... Je m'inclus là-dedans parce que moi, ma voiture, pour le coup, c'est un luxe et j'en ai pas besoin pour aller travailler. Mais ceux-là, effectivement, peuvent à bon droit se considérer comme... capable d'écologie. Ce qui est très curieux, c'est que à l'époque, au 19e, le peuple ouvrier était malheureux, il se révoltait, il avait raison de se révolter, il défendait des causes qui étaient justes, le travail l'interdiction du travail des enfants, la limitation des horaires de travail, les congés payés. Aujourd'hui, le peuple se révolte et en plus, ce sont les plus aisés qui ont raison. Mais c'est une violence supplémentaire parce que nous lui faisons la leçon, alors qu'en réalité, dans cette soi-disant fiscalité écologique, il y a d'abord une incapacité assez incroyable de la part de nos élites à proposer de véritables alternatives qui permettent une authentique transition écologique.
Vous ne faites pas partie de cette élite-là.
Mais si je devais contribuer à la vie politique, ce serait peut-être précisément pour essayer d'imaginer une autre vision. Et j'espère que nous serons capables de le faire tous ensemble. Je veux dire par là tous les Français, quelle que soit leur situation sociale. Parce que sans vision et sans projet alternatif, la fiscalité, encore une fois, ne suffira pas à préserver l'environnement.
Et c'est pourquoi je parlais d'examen de conscience écologique d'une certaine manière. Je le redis, Gaspard Ganzer, mardi, le président va présenter sa programmation pluriannuelle de l'énergie, soit la feuille de route du gouvernement en matière de transition énergétique. On se dit bonne chance, puisque même sur le sujet de la fiscalité d'une augmentation de 6 centimes d'euros, le consensus n'existe pas.
Non, mais là, le président de la République va devoir être courageux. mardi sur la question de la programmation pluriannuelle en matière d'énergie. Il avait annoncé avec son équipe, un peu fier comme Artaban, que, et se moquant de ses prédécesseurs, que la programmation pluriannuelle avait été mal pensée, mal imaginée. Bon, c'est facile de taper sur ses prédécesseurs, c'est un classique du genre. Peut-être que François Hollande l'a aussi fait assez facilement contre Nicolas Sarkozy, et souvent à tort peut-être. Mais maintenant il faut décider. Et donc quand il faut décider deux choses extrêmement concrètes. La première, quand est-ce qu'on ferme des centrales nucléaires? Et est-ce qu'on en ferme avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, Fessenheim et d'autres? Deux, est-ce qu'on crée de nouvelles centrales nucléaires? Et là, évidemment, si Emmanuel Macron annonce la création de nouvelles centrales nucléaires, eh bien là, il sera démasqué, en réalité. Parce que si on crée de nouvelles centrales nucléaires, on peut faire tous les raisonnements en expliquant l'obsolescence, etc. Ça sera un signal terrible contre la transition énergétique, parce que le nucléaire n'est plus notre avenir. Je ne dis pas qu'il faut être à 0% de nucléaire, mais ce n'est plus notre avenir. Donc ça, vraiment, je crois que c'est très important d'envoyer ce signal très fort en disant, ben voilà, notre avenir, c'est l'énergie renouvelable et rien d'autre. Deuxième chose, vous avez parlé de la loi mobilité tout à l'heure. Je lève un lièvre, quand même, parce que dans la loi mobilité, il y a la possibilité ouverte de créer des péages urbains. Je suis totalement contre cette idée. Parce que, de nouveau, qui va payer pour les péages urbains? Ce sont les plus fragiles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour accéder aux métropoles. Donc là, le gouvernement doit renoncer immédiatement à cette idée de péage urbain.
Et là, c'est de nouveau le candidat à la mairie de Paris qui parle ?
Pas du tout, parce que ça concerne toutes les villes. Non. Moi, surtout qu'à titre personnel, je suis contre le péage urbain. Parce que je pense que c'est toujours, qu'il faut créer d'abord les alternatives en matière de transport public et après faire payer les gens, mais il faut arrêter de piquer de l'argent dans le portefeuille des Français.
Gérard Courtois, pour conclure sur cette première partie, est-ce qu'au fond, finalement, au bout du compte, ce qui est reproché à ce président-là, c'est une certaine illisibilité de sa conscience écologique précisément ou de son ambition pour l'écologie ?
On aura la réponse. Gaspard le disait à l'instant, on aura effectivement la réponse mardi. Pour l'instant, il y a eu une attitude, disons, de dilatoire. La décision de reporter de manière incertaine la date d'application de la loi de transition énergétique qui fixait à 2025 des objectifs précis, la reporter à 2035 probablement, il y a un an, qu'avait assumé Nicolas Hulot, était assez clair de ce point de vue-là. Bon, puis on arrive, voilà, devant l'obstacle, et il est urgent de trancher. Comment tranchera-t-il? On va probablement y voir relativement clair. Je dis probablement parce que on peut à nouveau avoir ce qu'on a eu précédemment de la part d'Emmanuel Macron, mais aussi de la part des gouvernements de François Hollande, c'est-à-dire une attitude qui est imprévoyante. Une attitude qui, au fond...
Ou louvoyante par peur des réactions de l'opinion publique, ce qu'on a vu quand même ces derniers jours.
Ou imprévoyante, parce que quand même, cette histoire de taxe carbone, elle a été opportunément masquée par la baisse du prix du pétrole. Mais l'hypothèse que le prix du pétrole augmente, ce qui s'est produit depuis 2018, depuis le début de l'année, de manière forte, disons, n'avait pas été anticipée. Et à partir du moment où... voilà, il y a aussi de l'imprévoyance dans le comportement des gouvernements qu'aujourd'hui, l'actuel gouvernement paye plein pot.
Conclusion sur cette première partie, Thierry Pêche.
Moi qui ne serai pas, et c'est une révélation que je vous fais ce matin, candidat à la mairie de Paris...
Quelle déception !
Je suis très déçu, Thierry.
Ben oui, je sais bien. mais justement, je pense que la relève sera bientôt assurée. je serai d'une opinion très différente de celle de Gaspard sur les péages urbains. Il me semble qu'il faut faire payer le réseau routier à ceux qui l'utilisent, mais pas forcément aux plus faibles. La logistique marchande, les entreprises, les poids lourds ont un usage important du réseau routier. Et donc je ne pense pas qu'on... En fait, on essaye de résoudre le même problème qu'avec les portiques, dont vous avez dit que c'était une solution surréaliste. À la fin, il faut bien quand même que ceux qui polluent le plus payent leur part. Pas une part démesurée, mais leur part.
Et on ne sera pas d'accord.
Un point de désaccord à 11h34. Et puis, il y aura bien sûr la COP24 du 3 décembre au 14 décembre en Pologne, à Katowice. Je précise que lundi matin, Guillaume Herner consacrera justement sa matinale à une spéciale COP24. Il recevra notamment Rob Hopkins, l'un des penseurs de la transition écologique. Ce salut écologique, il viendra aussi des élus locaux dont nous allons parler maintenant. Ils étaient réunis cette semaine, vous le savez, en congrès. L'occasion de nous poser la question : à quoi servent les maires ?
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
À la faveur de leur congrès annuel cette semaine, les maires avaient droit à la parole. Il y avait celui qui racontait s'être fait agresser à la sortie de chez lui par une femme en colère qui lui réclamait une place de parking, et il constatait, comme tant d'autres, une relation de plus en plus consumériste de ses concitoyens avec leurs édiles. Un autre maire confessant qu'à part les dépôts de gerbes et les mariages, il se sentait dépossédé de ses pouvoirs par ces nouvelles intercommunalités ou regroupements de communes qui faisaient perdre aux conseils municipaux leur autonomie. Beaucoup entendu aussi cette semaine ces maires désemparés par la baisse des dotations ces dernières années, la suppression annoncée de la taxe d'habitation, la fin des emplois aidés. On avait lu aussi un peu effaré ce que nous apprenait la grande étude réalisée par le CEVIPOF, à savoir que 49% des maires interrogés ne souhaitaient pas se représenter lors des élections municipales de 2020. On avait vu enfin les polémiques autour de l'absence d'Emmanuel Macron au congrès annuel des maires de France. Mais comme toujours, en cherchant un peu, on entendait aussi d'autres sons de cloche. D'abord, dans l'étude du CEVIPOF, c'est 73% de maires interrogés qui se déclaraient plutôt satisfaits de leur vie d'élu, qui disaient avoir le sentiment que cette vie avait du sens et de la valeur. Et puis, il fallait lire aussi, mardi dans La Croix, le portrait d'un maire, il faut le dire, réconfortant. Son nom, Jean Cassilia. Il correspondait pile poil au portrait robot du maire français, un mâle de plus de 60 ans à la retraite, sans étiquette, élu dans le Loir-et-Cher. On le suivait dans ses activités quotidiennes, se félicitant de ses regroupements de communes qui permettaient de faire des économies d'échelle, par exemple pour le ramassage scolaire ou pour augmenter les horaires de présence en mairie. Un maire qui reconnaissait que le maillage administratif du territoire français était certes devenu complexe, mais qui prenait aussi cela comme une multiplication des possibles. Pour les transports, je me tourne vers l'agglomération, pour l'urbanisme, vers l'intercommunalité, pour l'organisation du 14 juillet, vers mon conseil municipal. Bref, un édile modèle du genre qui nous donnait envie de nous souvenir que le maire restait le pilier de la démocratie décentralisée, nous rappelant Tocqueville qui, dès 1884, écrivait « Sans institution communale, une nation n'a pas l'esprit de liberté, mon maire, ce héros ».
La France ayant voté, les nouveaux conseils municipaux élisent leur maire, qui donc va venir s'asseoir sur l'humble fauteuil des mairies villageoises, ceindre l'écharpe tricolore. Ce maire rural, le connaît-on? Connaît-on assez son rôle, son importance? Paysan au milieu des paysans, il mène la même vie qu'eux, partage les mêmes peines, souffre des mêmes soucis. Il connaît chaque foyer, il est pour chacun un guide et un conseiller. Dans sa mairie, il est le témoin obligé de la vie de tous. Il est de toutes les noces, comme il est de tous les deuils. C'est à lui encore qu'il ait choix de guider sa commune au milieu des flots d'une lourde paperasserie administrative. Ses nécessités aujourd'hui augmentent l'imminence de son rôle, et c'est peut-être ce travail patient, lent et long comme les travaux de la terre, accompli dans la compagnie de l'instituteur secrétaire de mairie, qui font de lui, dans ce décor fruste et quotidien, le protagoniste de la vie de l'une des 34 000 communes rurales de France. Un peu le patron, un peu le père, un peu le guide, monsieur le maire.
Voilà, elle vous plaît beaucoup, cette archive et pépite de Lina qui date de 1947. Dans ce jour, studio aujourd'hui, ça tombe bien pour répondre à la question à quoi servent les maires. Un philosophe, maire adjoint de Versailles, François-Xavier Bellamy, et quelqu'un, si j'ai bien compris, Gaspard Ganzer, qui pense un peu à la mairie de Paris. Un peu le patron, un peu le père, un peu le guide, monsieur le maire. C'est comme ça que vous voyez votre rôle à Versailles, François-Xavier Bellamy?
Oh là, non, certainement pas. Cette archive leur bond l'ORTF et elle donne un petit goût de nostalgie au mandat municipal. Mais vous savez, je repars de ça, c'est très important. On regarde souvent les communes et les 36 000 communes de France comme un espèce d'héritage du passé qu'il faudrait réussir à dépasser enfin dans l'univers de la mondialisation où big is beautiful et il faudrait des grands regroupements, des grandes régions, des grands ensembles.
De grosses intercommunalités.
Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que c'est d'une actualité incroyable et que ce maillage communal, dont il faut rappeler qu'il est quand même tenu par une immense majorité d'élus qui sont bénévoles, qu'il est tenu par une immense majorité d'élus qui ne sont pas affiliés à un parti, 95% d'entre eux n'ont pas d'étiquette partisane, 75% d'entre eux n'ont jamais appartenu à un parti politique, c'est ce que nous rappelait la récente enquête du CEVIPOF. Ouais. Je crois que ce maillage communal est effectivement, comme le disait Tocqueville, ce dans quoi se construit aussi la liberté démocratique. Dans cette archive, je reconnais des traits qui font partie du quotidien de bien des élus et ça me rappelle ce que j'ai vécu pendant les 10 dernières années. Être, c'est vrai, au cœur de beaucoup de joie et au cœur de beaucoup de peine et de deuil. Ça veut dire aussi être justement celui qui, dans la proximité, a la mission de représenter les citoyens parce que il vit la même vie qu'eux. François de Mazières, avec qui j'ai été élu, était lui aussi un maire sans étiquette. Évidemment, il vit dans sa ville, il vit du quotidien des gens. On y est tous les jours, on la traverse à pied à chaque instant. Et on est, comme le dit un élu local, à portée d'engueulade. C'est-à-dire que les gens ne nous considèrent pas comme étant loin d'eux, ce qui fait sans doute la popularité du maire, malgré l'impopularité chronique de la vie politique française. Et je voudrais dire que ça a un lien très profond avec le sujet qu'on évoquait à l'instant.
Parce
que...
Une sorte de concordance des temps entre ce congrès annuel des maires de France et le mouvement des Gilets jaunes cette semaine.
Oui, d'une certaine manière, quand je vois les Gilets jaunes, je me dis, au fond, ces gens-là, qui les représentent aujourd'hui? Qui les représentent vraiment? On a vécu pendant quelques années, quelques décennies, et ça n'était pas une affaire de macronisme, c'est quelque chose qui a habité la gauche comme la droite, avec l'idée qu'il fallait faire justement ces fusions, ces regroupements, avec l'idée qu'il fallait dépasser ce maillage territorial obsolète. On a fait les grandes régions à l'époque de François Hollande, et en fait, on a cessé d'éloigner la décision politique des citoyens. On a cessé d'éloigner la décision locale. La suppression de la taxe d'habitation va contribuer à cette dévitalisation de l'échelon local. Elle revient sur un héritage qui date du Moyen-Âge, c'est-à-dire la libre administration des communes. Désormais, c'est l'État qui va répartir les subsides. Et ensuite, on se demande d'où vient la crise démocratique qu'on connaît. Je crois qu'il y a une forme d'aberration là-dedans. Non seulement nous ne faisons pas d'économie avec ces fusions, un rapport de la Cour des comptes a montré que les fusions de régions avaient coûté plus cher que les économies qu'elles avaient permis de faire, parce qu'on ne supprime pas de services. Et la question qui se pose, c'est comment faut-il, là c'est clair, réussir à faire un choix courageux dans le millefeuille territorial français qui est une source de paralysie et de doublons absolument évident. Mais tant qu'on n'aura pas fait ce choix clair, le fait seulement de faire fusionner des communes ou de dévitaliser l'échelon communal, de décourager les maires qui sont quand même très nombreux aujourd'hui à se dire qu'ils ne servent plus à grand-chose, eh bien tous ces choix-là ne pourront qu'accentuer encore la crise de la représentation qui est au cœur du problème démocratique que nous connaissons aujourd'hui.
Alors prenons les faits. Vraisemblablement, justement, un peu précisément, et notamment cet abandon de la taxe d'habitation. Vous avez écrit à ce sujet dans Le Monde cette semaine, Gérard Courtois. Pour vous, c'est une taxe périmée dont vous avez du mal à comprendre qu'on puisse la regretter.
C'est-à-dire, c'est d'abord, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, parenthèse, mais la suppression de cette
taxe...
Vous
l'avez plus ou moins écrit comme ça cette semaine dans Le Monde, je crois, quand même.
Vous avez eu des propos très éclairants, Gérard, sur l'obsolescence des bases cadastrales, si je peux me permettre.
C'est exact.
Vous voyez que nous vous lisons attentivement.
C'est exact. Et d'ailleurs, et je le signalais parce que dans cette enquête de Sciences Po, il y a une réponse extraordinaire des maires. La question leur est posée, est-ce qu'il faut modifier la taxe d'habitation parce qu'elle est fondée sur des bases obsolètes? Et la réponse est non à 80%. Ça n'est pas une bonne raison, alors que tout le monde sait depuis 30 ans que ces bases sont totalement dépassées et périmées. Bon, fin de la parenthèse. Mais la suppression de la taxe d'habitation, en dehors de la manière dont elle a été décidée et, entre guillemets, imposée aux élus locaux et aux maires, elle est vécue, elle était l'une des dernières ressources propres des municipalités, elle est vécue comme une négation ultime d'un principe qui est un principe constitutionnel, c'est la libre administration des collectivités locales et des communes en particulier. Et ça renvoie à ce sentiment de dépossession de leurs prérogatives que beaucoup de maires, pas tous, c'est vrai, il y en a qui sont heureux de leur action, de leur parcours et de leur bilan, mais beaucoup de maires expriment aujourd'hui un découragement très fort. Dans le chiffre de 49% de ceux qui ne veulent pas, la moitié qui ne veulent pas, ou qui disent ne pas vouloir se représenter en 2020, le chiffre monte à 55 ou 60% dans les petites communes. Or, les petites communes, c'est quoi? Je veux dire, plus de 50% des communes françaises ont moins de 500 habitants, plus de 80% ont moins de 2000 habitants. Donc, les 4/5 des maires, c'est pas les 4/5 de la population française, mais les 4/5 des maires, sont confrontés à ce sentiment de dépossession. Voilà ce que percute l'histoire de la taxe d'habitation. En quoi ça explique ce grand découragement et en même temps cette colère des maires? Et je rejoins tout à fait ce que disait François-Xavier Bellamy. Moi, là-dessus, j'ai un point d'accord avec lui, Thierry.
Faites ce que vous voulez.
Il est le pivot de cette émission cette semaine.
Non, mais c'est vrai que dans l'archive formidable que vous avez présentée en début de cette partie de l'émission, il y a le maire avec les violons derrière. Mais il n'y a ni le curé, Ni l'instituteur.
Si, il y a l'instituteur, vous avez peut-être mal écouté, entendu, qui pardon. Aide le maire à faire la paperasserie administrative.
J'étais tellement... Mais précisément, le problème, c'est que, je caricature, le curé a disparu dans ces villages et que l'instituteur est en voie de disparition. Et de fait, le maire de ces villages, disons de moins de 1000 habitants, c'est-à-dire plus de la moitié des villages et des communes françaises, il est... Au fond, il devient le secrétaire de mairie qu'était autrefois l'instituteur. Et il y a là quelque chose qui
alors,
est...
Ce qu'on voudrait comprendre, c'est qu'en même temps, il y a ce paradoxe français où on sait que ces dernières années, il y a eu l'explosion du nombre des fonctionnaires dans les collectivités locales. Alors pourquoi est-ce que cela s'accompagne par ailleurs d'un tel ressentiment des maires aujourd'hui, Thierry Pêche ?
Ouais, c'est charmant, les archives. Mais on oublie de rappeler un truc essentiel, c'est que dans les villages qui ont moins de 1000 ou 2500 habitants aujourd'hui, il y avait le double de population il y a 100 ou 150 ans. Donc il y a beaucoup moins de monde dans ces petites communes, beaucoup moins. La population n'est pas du tout répartie de la même façon sur le territoire. En 1930, 50% des Français vivent dans le monde rural, 50% dans le monde urbain. Aujourd'hui, on est dans des proportions, vous avez 25 millions de Français qui vivent dans les 15 plus grandes aires urbaines françaises. On est dans un pays qui s'est beaucoup urbanisé. Donc, la majestueuse juridiction des maires des petites communes est très respectable, mais ils règnent sur des royaumes qui se sont vidés. Alors, oui, ils ont cessé de se vider, mais attendez, je voudrais finir.
Le vrai maillon de base de la démocratie.
Si vous voulez, c'est le maillon de base, mais la question de la représentation, elle est aussi relative au nombre de gens que vous représentez. Ils sont très vocaux, ils sont d'autant plus vocaux que leur base de représentation s'est amaigrie. Alors, ça s'est arrêté, on l'a rappelé tout à l'heure, le monde rural est en train de se repeupler un peu, tout doucement. Bon. Donc, la question, elle doit être examinée à la lumière de ce fait démographique. Et du point de vue de ce fait démographique, vous avez 18 000 communes sur 36 000, c'est-à-dire la moitié, qui sont des communes dites multipolarisées ou isolées. Donc des communes où il n'y a pas beaucoup de monde. Il est légitime de se poser la question de leur regroupement, parce qu'à la fin, il s'agit de rendre des services aux gens.
Bon. Ce que racontait ce maire que je citais tout à l'heure,
voilà.
Donc, ces regroupements de communes qui lui permettent d'avoir plus de personnes en mairie plus longtemps, etc.
La littérature de la Cour des comptes a peut-être montré que les regroupements régionaux n'ont pas été une réussite, mais elle a aussi montré que dans toutes les fonctions publiques, celle qui avait été la plus dispendieuse en création d'emplois et en charges publiques, c'était le bloc communal.
Mais bon. Vous savez pourquoi ?
Non mais attendez.
Parce que l'État n'a cessé d'opérer des transferts de compétences.
Non, du tout. Alors ça c'est vrai, c'est le bon correctif pour l'échelle régionale et départementale. Mais dans le bloc communal, si vous évacuez ce fait qui est réel, il reste une surdépense, si vous voulez, du bloc communal. Bon, elle est pas, ça explique pas les grands problèmes, etc. Mais elle existe. Donc... On peut dire, ça n'a servi à rien de faire des intercommunalités, c'est venu rajouter une couche et c'est l'origine du problème. Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il faut aller plus loin. Alors, ça va paraître provoquant aujourd'hui parce que tout le monde fait preuve d'une grande et, comment dire, attendrissante compassion à l'égard des maires. Moi, je pense qu'il faut maintenant donner aux exécutifs des intercommunalités dans les espaces peu denses une légitimité démocratique qu'ils n'ont pas en faisant des élus au suffrage universel de leur population. Et à ce moment-là, il sera beaucoup plus légitime de leur confier le PLU et d'autres fonctions de décision qui sont importantes.
François-Xavier Bellamy, est-ce qu'il y a un problème particulier de ce gouvernement-là avec la décentralisation, avec les collectivités locales, ou est-ce qu'au fond, cela va bien au-delà, et ça précède bien sûr le président Macron, on a mal géré, on a été dans une ambivalence vis-à-vis de la décentralisation en France ?
Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de vivre un moment très étonnant de recentralisation. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que la suppression de la taxe d'habitation en fait partie. Il faut que les gens comprennent que les communes vont continuer à fonctionner. Mais désormais, leur budget sera indexé à la décision de l'État. C'est-à-dire que maintenant, on recentralise la dépense, y compris la dépense locale. Moi, je suis... Je vais le dire très rapidement, je ne voulais pas empêcher Gaspard Ganzer de réagir, mais je suis en profond désaccord avec vous, Thierry, sur ce point. Comme ça nous permet d'avoir un vrai, ferme et complet désaccord. Je crois qu'on a... Enfin, c'est une vision... Et sans doute est-ce aussi quelque chose qui est très fort dans le tempérament d'Emmanuel Macron. C'est une vision technocratique, si je puis me permettre. C'est-à-dire, on regarde les choses depuis Paris et on se dit, ça fonctionnera beaucoup mieux si on rassemble les gens et que on fait des échelles de décision qui sont plus ajustées. En réalité, quand on est dans l'un de ces villages, ma famille en vient, on voit que les gens ne connaissent. Enfin, la seule différence, c'est on supprime pas un seul service, on supprime pas un seul emploi public, on supprime pas en réalité d'action ou d'activité menée pour les communes. En revanche, les gens ne connaissent plus leur maire parce que pour eux, ça veut dire qu'il habite dans un village qui est à 20 km de là. Ils ne savent pas exactement qui prend quelle décision. Les conseillers municipaux qui étaient de leur commune disent qu'eux ne peuvent plus rien parce qu'ils ne comprennent pas comment les choses se déroulent. À la fin, ce sentiment de dépossession qui a été largement partagé autour de cette table, il conduit effectivement à une crise de la représentation. Et fondamentalement, on ne fait pas d'économie. En revanche, on éloigne la décision publique. Je crois que c'est une double erreur. Une erreur parce que nous avons besoin d'abord que les gens puissent se sentir représentés. Et plus les communes perdent des habitants, et plus elles se sentent isolées, et plus il est nécessaire qu'elles puissent se sentir capables de maîtriser leur destin et leur avenir. Et deuxièmement, ça n'empêche pas les intercommunalités de mener des opérations stratégiques, des économies d'échelle qui sont évidemment nécessaires. Mais deuxièmement, le principal, à mon avis, la principale aberration, et c'est là où ça va à contre-temps, c'est que nous sommes sans doute à la veille d'une réirrigation de nos espaces ruraux, parce que, encore une fois, les nouvelles technologies vont nous permettre de retrouver une plus grande possibilité d'habiter là où nous voulons travailler, de travailler là où nous voulons habiter. C'est ce que dit Jean-Christophe Fromentin dans un livre passionnant qu'il vient de publier, où là, il y a vraiment un travail de prospective qui me paraît à la hauteur des enjeux. Et donc, vouloir défaire l'échelle de la décision communale, qui, à mon avis, par la subsidiarité, celle où la décision est la plus ajustée au terrain, celle qui permet le mieux possible la représentation, ça me paraît aller vraiment à contre-temps. Et c'est pas par compassion envers les maires.
François-Xavier, les gens ne vivent pas en permanence à l'ombre du clocher. Ils bougent. Le territoire vécu, c'est pas là où vous avez votre pavillon, votre maison, votre appartement. C'est celui-là, plus celui où vous travaillez, plus celui où vous consommez. 20 kilomètres, c'est parfois pas grand-chose pour beaucoup de gens. Donc, dire que le mec l'élu qui est à 20 kilomètres est un étranger radical, je comprends pas.
Mais pas un étranger radical,
non,
mais
alors voilà, ils le connaissent.
Moi, je suis de Arthon-en-Ré, dans la Loire-Atlantique. Le maire d'Arthon-en-Ré, maintenant, il est devenu adjoint d'une commune qui s'appelle Chaumont-en-Ré. Personne ne connaît ce nom. Aucun habitant ne se reconnaît de cette nouvelle entité qui sort de nulle part, et le maire est maintenant l'habitant d'une autre commune que personne ne connaît, que vous le vouliez ou non. Le local et la proximité, ça compte aussi pour les gens, et ça ne rentre pas dans les chiffres, mais ça fait partie de leur vie.
Gaspard Gandler, je voudrais que vous réagissiez à ce que disait aussi il y a quelques secondes François-Xavier Bellamy, qui parlait d'un président particulièrement recentralisateur. C'est le président Macron qui est recentralisateur, ou c'est la France de toute façon qui par tradition est jacobine?
La France est clairement jacobine, mais ce président l'est tout particulièrement, et je pense que c'est un problème, parce que même si moi, mon village, c'est Paris, c'est le village de mon père et de mes grands-parents, je suis extrêmement...
Il entend de nouveau
Non, il n'est pas encore temps, vous me réinviterez en mars et on parlera de la mairie de Paris à ce moment-là.
Si vous êtes vraiment candidat, vous aurez du mal à rester dans cette émission,
non,
vous
non,
savez.
Mais les antennes de France Culture, j'espère, seront ouvertes aux futurs candidats à la mairie de Paris s'ils confirment leur intention.
Et pas dans cette case, c'est un autre débat.
J'imagine bien. Et pour revenir au fond, je pense qu'effectivement il faut faire attention à cela, parce que la recentralisation ne correspond pas à ce qu'on peut attendre du développement et de la réforme de l'État. Il faut le faire de façon intelligente, en s'adaptant à chacun des territoires. Dans les zones extrêmement rurales, compter sur un maillage extrêmement serré, évidemment des centres de décision, mais aussi des services publics dont on a parlé tout à l'heure, puisque on doit faire toujours des kilomètres en plus pour trouver une poste, trouver un médecin, trouver des moyens pour se nourrir et s'éduquer, et ça c'est un vrai problème. Mais en même temps, dans les zones denses urbaines, je pense que, là je me permettrai, parce que ça vaut, on parle beaucoup de Marseille en ce moment, je vais parler de Marseille et de Paris, mais la pauvreté, l'exclusion n'est pas réservée aux zones rurales. Dans les grandes villes de France, à Marseille par exemple, dont on a beaucoup parlé récemment, il y a aussi des gens qui se sentent dans la périphérie alors qu'ils sont simplement à quelques kilomètres du centre. Donc gardons-nous des caricatures qui opposent le monde rural au monde urbain. Il y a aussi de la souffrance dans les grandes villes, à Paris, à Marseille, à Lille, à Lyon. Et il faut penser à chacun si on veut avoir une vision équilibrée de ce territoire.
Gérard Courtois, est-ce que les maires ne sont pas aussi finalement aux premières loges pour constater le déclin d'une France qui tombe, comme disait à l'époque Nicolas Bavrez, c'est-à-dire en première ligne pour constater l'impuissance de l'État devant cette France désindustrialisée, endettée, avec un fort taux de chômage? C'est cela qu'ils payent aussi, et d'une certaine manière c'est imputable à l'époque et pas aux dirigeants?
Je reprendrai pas l'image de la France qui tombe, elle me paraît pas juste. En revanche, que les maires et ceux qui expriment à la fois de la lassitude et de la grogne renvoient à leur sentiment ou expriment le sentiment d'être, on vient d'en parler, ignoré, oublié, négligé, voire méprisé. C'est évident. Méprisé par ou négligé par qui? par guillemets Paris, pardon, représentatif d'une espèce de technocratie lointaine d'État et déconnectée du terrain, est négligée ou méprisée. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils expriment, en tout cas par la voix de leurs représentants de l'Association des maires de France, par un président jugé arrogant et ignorant de ce type de réalité. J'ajoute, ou je corrige quand même cette impression, je pense que les deux heures de questions-réponses à l'Élysée mercredi soir entre le président de la République et 2000 maires ont relativisé l'image qu'a pu donner le président de l'Association des maires de France.
Oui, qui à cette occasion a reconnu qu'il y avait en effet des intercommunalités trop grandes en France.
Et a démontré qu'il n'était pas dans l'évitement, en tout cas, et qu'il était prêt à échanger, ce qui ne veut pas dire être d'accord avec toutes les revendications qui s'exprimaient. Mais il y a ce sentiment de négligence et de... Voilà, qui est très profond, manifestement, chez ces élus locaux, et qui rejoint, parce que ça n'est pas le même, mais c'est un sentiment similaire à celui qu'expriment les Gilets jaunes. Le sentiment de d'être ignoré, oublié, ou voire méprisé. Et c'est la conjonction de ce type de mouvement. C'est pas la coagulation des luttes qui menace le gouvernement, c'est la conjonction des colères. Et l'espèce d'état gazeux dans lequel on se retrouve aujourd'hui.
Conjonction des colères, et en effet, cela fait le pont avec notre premier sujet, Thierry Pêche, ces élus locaux qui ont souvent été interpellés eux-mêmes cette semaine par le fameux mouvement des Gilets jaunes, et souvent de façon assez violente.
C'est les vrais, là-dessus, je crois qu'on sera tous d'accord. Les maires sont des vrais élus de proximité, sont les élus du quotidien. Donc ils sont à portée d'engueulade, l'expression est excellente, et ils ne manquent pas d'être interpellés. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont exprimé de l'empathie avec la colère sociale que portaient les Gilets jaunes notamment. Et après, ce qui est compliqué, c'est d'entendre certains d'entre eux dire « les Gilets jaunes ont raison de se plaindre des taxes et laissez-nous, s'il vous plaît, les augmenter. » Parce que il nous faudrait plus d'action publique dans les territoires, etc. Il faut être un peu responsable quand on est élu, et en particulier lorsqu'on a quand on est saint
de l'écharpe tricolore, les fameux paradoxes français. Merci beaucoup Thierry Pêche, François-Xavier Lamy, Gérard Courtois et Gaspard Ganzer. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé comme toujours avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisé, à la technique aujourd'hui Jean Frédérics. À suivre, Les bonnes choses de Caroline Brouet, comment transmettre le goût des bonnes choses justement aux enfants par les livres, puisque vous le savez, Radio France fête le livre ce week-end. Vous êtes très attendus d'ailleurs cet après-midi, maison de la radio. Et puis surtout et aussi, venez aussi dimanche prochain, 11h, au Théâtre de l'Odéon à Paris, assister et débattre avec les invités de l'Esprit Public. Après le succès de notre première édition fin septembre, Nous récidivons, venez porter au Théâtre de l'Odéon avec nous un autre regard sur l'actualité de la semaine. Nos visiteurs dimanche prochain, 11h, Hubert Védrine, Aurélie Filippetti, François-Xavier Bellamy, encore lui, et Daniel Cohn-Bendit. Une fois n'est pas coutume, qui cette fois, et contrairement à 1968, n'aura pas besoin de forcer les portes du théâtre. Réservez vos places dès à présent au 01 44 85 40 40, 01 44 85 40 40. À la semaine prochaine, on se réjouit de vous rencontrer.